Where I'm from, there's a lot going on. English meets French in every borough. No matter where you're from, downtown, DG, Laval, South Shore, West Side, North Side. In my city, every culture coincides. The African diasporas will collide. You are now tuned in with Jess and Annabelle. That's where we at, where we at, where we at, MTL.
Allô tout le monde, on est très contente aujourd'hui que vous soyez avec nous pour un nouvel épisode. Donc on vous revient sur un sujet qu'on voulait aborder depuis très longtemps, qui est à la source de beaucoup de problématiques et d'enjeux. C'est en lien avec le système d'éducation, le milieu scolaire au Québec. Donc, plus particulièrement, on voulait parler d'éducation antiraciste, antidiscriminatoire. On pense que pour beaucoup de personnes racisées aussi, c'est probablement un des premiers endroits, un des premiers milieux où est-ce qu'on a fait face à des actes discriminatoires, des actes de racisme. Donc, je pense que ça fait écho à beaucoup d'expériences personnelles pour plusieurs. Alors, on a la chance de s'entretenir avec Madame Benita, si vous la connaissez bien sur Instagram, une enseignante au primaire. Allô, Benita!
Allô!
Comment tu vas aujourd'hui?
Ça va fébrile, mais ça va. Très heureuse d'être ici, très honorée aussi, là, parce que... C'est vraiment votre podcast, c'est l'espace que vous avez depuis un petit peu plus qu'un an. Ça a un peu changé ma vision, puis ça m'a comme aussi validé beaucoup dans mon expérience. Fait que je trouve ça vraiment très chouette d'être comme devant celle que j'écoutais pendant plusieurs épisodes pendant les premières saisons. Puis, ouais, je suis très contente de m'entretenir avec vous.
Oui, puis comme on demande à toutes nos invités en début d'épisode, si tu avais à te positionner au plan des identités, pas seulement raciales, mais comment tu te positionnes dans ta vie aujourd'hui?
Allô, Elijah!
Elijah est encore avec nous aujourd'hui.
Donc, comment je me positionne? Je suis une femme noire, je suis d'origine rwandaise. J'ai grandi au Québec. Je suis arrivée ici, j'étais quand même très jeune, donc je suis aussi québécoise de par où j'ai été élevée essentiellement. Quand même, mon identité rwandaise est quand même très, très près de mon cœur. Puis sinon, je suis une enseignante depuis maintenant 10 ans. Je vais entamer ma dixième année. Je suis maman, je suis conjointe, je suis une amie et je suis depuis pas si longtemps active aussi sur les réseaux sociaux pour apporter un peu une autre couleur, là, no pun intended, sur la communauté Instagram du Québec qui sort un petit peu plus du lot. Donc, voilà.
Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant qu'enseignante puis pourquoi tu as choisi ce métier-là?
Ah, très bonne question. J'ai pas toujours voulu être enseignante. Je le savais depuis que je suis au secondaire que je voulais être dans la relation d'aide. J'étais très intéressée par la psychologie. J'avais fait un début de bac en psychoéducation et psychologie. Il y avait vraiment cette partie-là qui m'interpellait. Je m'imaginais toujours travailler dans une école primaire. Je sais pas exactement pour quelle raison. J'ai quand même eu de très belles expériences à l'école primaire. Des bons phares aussi. Puis j'aime beaucoup la vibe d'être dans une école avec plein d'enfants qui rient et qui te font des câlins. Je pense que d'évoluer dans un milieu professionnel où est-ce que majoritairement, tu as du bonbon puis tu as des belles choses qui t'arrivent puis des belles attentions. Je pense que je me suis dit que ça serait un métier ou une vocation que je ne regretterais pas. Puis sinon, mon parcours, c'est ça, dans le fond, j'ai fait toute ma scolarité à Québec, là, mis à part le petit clin d'œil à l'Université de Montréal, mais école primaire au Québec, à Québec, dans un milieu quand même assez défavorisé. Puis ensuite, je suis revenue à Québec faire mon bac à l'Université Laval. Puis quand j'ai rencontré mon copain qui vivait déjà à Montréal, j'ai tout de suite commencé à travailler assez tôt, là. Dans les écoles de Montréal, là, je me suis promenée un peu de quartier, de milieu. Donc, j'ai vu quand même de différents milieux, là, de très favorisés à défavorisés. Puis, c'est ça, dans le fond, depuis quelques années, je collabore à un blog qui se consacre à la littérature jeunesse. Donc, je suis très, très fière de faire partie de cette équipe-là. Puis, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à avoir un peu plus de... une petite plateforme, une visibilité, mais c'était surtout pour faire rayonner la littérature jeunesse. Mais mon angle d'éducation antiraciste a vraiment pris... c'est ça. Dans le fond, il y a eu un avant-après malheureusement, le décès de George Floyd, là, ça a comme ouvert beaucoup de perspectives de mon côté. Puis, donc, c'est un peu comme ça que j'en suis, où j'en suis aujourd'hui, comme devant vous, à avoir un peu plus une voix par rapport à ma perception d'éducation, puis à ce que nous, on peut faire comme représentante et ce qu'on peut aussi envoyer comme message à ceux qui ne nous ressemblent pas. Mm-hmm. Donc, voilà.
Mais c'est vrai que nous, on t'a connu beaucoup sur Instagram, c'est ça, en lien avec toute la sensibilisation que tu faisais au niveau de tes élèves, les PowerPoints que tu avais préparés, je pense, pour une présentation sur le racisme, justement, les livres que tu partageais qui étaient adaptés aux enfants et tout. Mais est-ce que, justement, quand c'est arrivé, tous les événements en lien avec George Floyd, est-ce que... Ben, en fait, toi, tu étais à où tu étais un peu dans ton processus d'identité raciale à ce moment-là? Est-ce que c'était déjà comme ton cheval de bataille dans ta profession?
Pas du tout. Okay. Pas du tout. C'est justement dans ces mois-là, là, je dirais tout ce printemps-là, que j'ai commencé à vraiment réaliser à quel point pas que j'étais pas fière de mon identité noire, mais on dirait que j'avais tellement peur d'être comme cataloguée, puis d'être le porte-parole, puis d'être comme un peu le poster child. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui m'agaçait beaucoup là-dedans. Peu importe, on est travaillé dans quel milieu, il y a toujours un souci de s'intégrer de la meilleure façon. Puis la meilleure façon de s'intégrer, généralement, qui n'est pas une bonne façon, mais qui est quand même la façon la plus facile pour ne pas avoir trop de microagressions, pour aussi pas trop avoir d'étiquettes qui t'est associée, c'est vraiment d'essayer de « blend in ». C'est vraiment d'essayer de parler le code, c'est de masquer ton accent, c'est de masquer ton look aussi. Donc, il y avait plein de choses que j'avais déjà comme encodées un peu en me disant genre « Ah, faut pas que je sonne trop black, faut pas que j'aille l'air trop black, faut pas... » Il y a des choses que j'avais un peu internalisées, que j'ai appris, qui s'appelle du racisme internalisé, mais je pouvais pas nommer comme ça quand j'étais au secondaire, cégep, tu sais, mes jobs que j'ai eu avant d'être enseignante aussi, où est-ce que j'étais vraiment comme dans l'assimilation, justement, pour pas me faire suer, pour pas utiliser un autre langage. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai développé, ben en fait, qui a vraiment changé à partir du moment où est-ce qu'il y a eu comme tout cet éveil-là par rapport à toute l'éducation antiraciste. Et il y a beaucoup de moments clés. Je pense à votre premier épisode quand vous êtes présenté, celui avec les filles de Walk or Whatever aussi, le documentaire Briser le code. On dirait que c'est comme si tout d'un coup j'avais comme un miroir de comme genre holy shit, je suis pas toute seule. Mm-hmm. Puis tout ce que je ressentais puis que j'étais pas capable de nommer, ça a un nom. Puis il y avait comme genre des milliers de personnes qui se sentaient comme moi. Mais à ce moment-là, c'est pas quelque chose que je partageais nécessairement at large non plus. C'était comme, ben, mon safe space, c'était genre mes amis, mon frère, le monde avec qui j'ai grandi à Québec. Puis, mais il y avait comme plein de choses que je réalisais que j'avais comme essayé de cacher un peu parce que je voulais pas déranger. On a aussi de rester loin un peu des stéréotypes black de comme t'es loud, tu te plains tout le temps, t'es agressif. On dirait que je voulais comme tellement être ralenti de ça que je me validais un peu dans cette espèce d'image-là de genre comme « Ah, je suis pas comme les autres noirs », même si je le savais à chaque fois qu'on me le disait parce qu'on me l'a dit genre plein de fois. Je savais que c'était pas un compliment, là. Ouais. C'est un complimarde, comme on dit.
Oui, exactement.
Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé vraiment dans ce printemps-là où est-ce que ça a fait genre comme... Ça n'a aucun sens à quel point je me suis moi-même conditionnée à être anti-black sans le savoir. Puis à partir du moment où je l'ai su, j'ai fait « Never no more », là, tu sais. Mais c'est ça, il y avait comme plein de choses que je j'avais pas nécessairement mis le doigt dessus, puis j'avais pas nécessairement mis les mots dessus, puis je sentais que je me disais, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je me dis, c'est sûr que je suis pas toute seule, c'est sûr. Je suis quand même consciente qu'on n'est pas des milliers de femmes noires qui œuvrent dans le milieu de l'éducation, mais il y en a quand même, puis même si t'es pas noire, sinon t'es d'origine arabe, sinon t'es asiatique, il y en a plein qui ont quand même les mêmes, ils travaillent pas, ils ont pas les mêmes soucis au niveau des stéréotypes, mais ils ont quand même toute cette représentation-là puis ce bagage-là auquel non seulement on n'adresse pas, mais on fait un peu semblant que ça n'existe pas, puis on va comme le justifier d'une autre façon, puis ça va comme être tout voilé sur beaucoup là, d'auto-validation du côté de la communauté blanche qui va dire « ouais, mais on n'est pas raciste » ou « c'est moins pire qu'aux États-Unis » ou « ça devient pas aussi flagrant », mais le racisme dans le milieu d'éducation, que tu sois l'acteur, là, comme un enfant du primaire ou au secondaire ou dans, mm-hmm. dans les études supérieures ou quand tu œuvres comme éducateur spécialisé ou peu importe. Il se manifeste de tellement de façons qui est comme tellement caché.
Ben oui.
Puis une image que j'avais déjà vue il y a un petit bout de temps, mais que j'ai réemployé un peu, c'est que c'est comme un iceberg. Mm. Fait qu'on a comme la pointe où est-ce qu'on a justement les violences, les meurtres, les... Mm-hmm. Puis là, après ça, ah, t'as l'incarcération massive, ah, t'as le profilage racial, ah, t'as les microagressions, t'as l'accès aux emploi et appartement. Il y a tellement de choses. Puis il y a des trucs qui sont super... qui sont vraiment, c'est tellement banal et ça a tellement l'air inoffensif, mais ça ne l'est pas. Puis, mm-hmm. mon exemple classique, c'est toujours les cheveux. Quand j'étais petite, quand j'étais au primaire, j'avais un struggle immense de par mes cheveux et tout, mais j'avais toujours comme des commentaires ou des espèces de petits gestes un peu playful, où est-ce que justement on me passait la main dans les tresses, puis on me questionne, puis on cible. Ça a toujours l'air comme tellement... banalisé, puis de la curiosité, ça fait, tu sais, ça fait à la limite, c'est comme cute, c'est comme une façon de se montrer intéressé à toi, mais tu finis par te sentir un peu comme un phénomène de foire. Moi, je mais me souviens encore de quand je revenais de la récréation, puis là, je monte les escaliers, puis il y avait des surveillants qui étaient comme à chaque palier et tout. Puis chaque palier où je passais, j'étais en, j'imagine, maternelle première année, parce qu'à un moment donné, j'ai dit à ma mère d'arrêter de me faire cette coiffure-là. J'avais comme des espèces de petits afro-puffs, là. J'en avais genre 4, là. Chaque palier où je passais, ben oui. Puis c'est des choses que j'ai revues après étant comme sur la cour d'école, quand je suis rendue adulte. Fait que là, ça me trigger, tu sais. Puis à ce moment-là, je sais pas exactement pourquoi. Puis là, j'avais mon réflexe, souvent, c'était aller voir l'enfant à qui ça arrivait, puis lui demander si ça lui dérangeait. Jusqu'à ce que, à un moment donné, tu sais, rendu plus tard, là, je me disais genre comme non. Tu sais, je prenais la main de l'autre enfant qui touchait, je dis, tu touches pas à ses cheveux, tu n'y as pas demandé, puis c'est pas de tes affaires, c'est pas cache derrière son foulard, là, tu sais. Aux adultes aussi, comme quoi, arrêtez, ils n'aiment pas ça, c'est pas nécessaire, c'est comme, touche aux cheveux de personne. Mais là, c'est ça. Au début, c'était comme, je le disais de façon diplomate et cute. De moins en moins diplomate. Je suis encore cute, mais je suis moins diplomate que j'étais. Mais ça passe mieux parce que je l'assume plus. Parce que maintenant, j'ai comme les mots pour le nommer, puis je suis capable aussi de relate sur, tu sais, de le comparer aussi à d'autres expériences comme quoi, ben mes amis profs, ils se font jamais passer la main dans les cheveux, là. Ils se font jamais demander combien de temps ça a pris pour faire leur truc. Ils sont pas non plus demandés 1000 fois si leur coup de soleil leur fait mal. Tu sais, c'est comme, c'est tellement de choses qui sont agressants, mais que tu te dis genre, bon, ben c'est juste, c'est dérangeant, mais ça dure comme 5 secondes en conversation, je passe à autre chose. Mais tu as toujours ce petit malaise, là.
Oui.
Fait que c'est vraiment quelque chose qui s'est comme plus ancré dans dans la dernière année, là. Puis c'est sûr que mon éducation qui est comme ongoing avec Instagram, avec, tu sais, ce que je vois passer, avec ce qui est partagé, ça vient vraiment valider. Puis, tu sais, c'est beaucoup grâce aux comptes américains, mais je trouve qu'on n'a pas vraiment de penchant au Québec.
Oui.
Tu sais, fait que c'est ça.
J'allais te demander, c'était une de mes questions, qu'est-ce que tu constates sur le terrain dans les écoles? Est-ce que t'as l'impression que les profs ou le système reconnaissent qu'il y a des problèmes systémiques dans les écoles? Tu as donné l'exemple que tu vois encore dans les cours d'école des enfants se faire pogner les cheveux, mais c'est comme it's 2021, on devrait tous être au courant.
Oui. Mon impression, c'est que c'est un peu mieux. Genre, s'ils se font call out, généralement, je pense que ça peut bien passer parce qu'ils l'ont juste jamais vu passer.
Mm-hmm.
Mais je suis sceptique par rapport à aux bonnes intentions. Je pense que de manière générale, c'est sûr que là, je suis dans une espèce de petite micro-société à Montréal avec quand même plusieurs communautés ethniques et tout ça, puis des personnes ouvertes. T'sais, dans toutes les équipes écoles où est-ce que j'ai évolué, ça n'a jamais été flagrant, intentionnel et intense. Mm-hmm. Mais je sais que peut-être que l'école à côté, c'était autre chose. T'sais, puis ça dépend comme... je trouve que l'agressivité ou les discriminations qui sont notoires et comme à peine voilées sont vraiment plus intenses avec les communautés musulmanes qu'avec les Noirs. Parce qu'il y a comme, on dirait, comme un shift de hate qui s'est fait.
Mais
comme
il y a tellement d'islamophobie au Québec.
On s'entendra que c'est pas un hasard, là, 2000 ans. Ouais. Mais ça fait quand même, je trouve qu'il y a quand même cette différence-là. Donc, sans vouloir parler pour tout le monde, moi, je pense que il y a quand même cette reconnaissance-là de pratiques discriminatoires et tout, mais ça a tellement l'air souvent inoffensif, puis souvent, les personnes, soit les adultes qui travaillent là, soit les enfants, ils vont rien dire. Fait que ça passe toujours dans le bar comme si ben ça l'a pas dérangé, il a rien dit. Mais des fois, il est comme juste bloqué ou il est comme tellement agressé que c'est pas trop nécessairement ce qui vient d'arriver. Puis c'est encore là, c'est dans les gestes qui sont comme intentionnels ou qui sont comme qui se passent de manière plus, plus flagrante. Mais tu sais, quand c'est des, je sais pas, des espèces de préjugés qui sont comme partagés dans une salle d'épreuve, ça... on n'en a aucune espèce d'idée. T'sais, si tu n'es pas c'est là vrai. Pour l'entendre, c'est comme qui va raise the flag to acknowledge it? T'sais?
D'où l'importance que les personnes qui se considèrent comme des alliés speak up. Oui. Parce que je pense qu'être enseignant ou professeur, c'est un privilège, honnêtement, d'avoir un impact sur la vie de jeunes 100%. Humains. Puis, si on est pour enseigner de manière antiraciste, c'est important qu'on passe par-dessus l'inconfort. Et surtout de le déni, tu sais, pour comme adresser des réels problèmes, parce que sinon, ben, ces enfants-là vont continuer à vivre dans des expériences hyper traumatiques à l'école. Puis moi, j'ai 26 ans et je me rappelle parfaitement de plein d'expériences que j'ai vécues il y a plus de 20 ans.
Ouais, quand même, c'est, hein, comme,
c'est des trucs-là.
C'est des petits traumas pareils.
Exactement.
Là, qui font en sorte aussi que tu gardes un souvenir de l'école où est-ce que d'abord tu te sens pas tellement à ta place, tu sais. Que ce soit d'être neurodivergent, parce que justement, on en parlait avec l'épisode avec Diane.
Oui.
Mais en plus, si t'as la couleur, si t'as été dans une école qui était comme cotée, un peu genre badass, il y a aussi ça qui fait en sorte que tu te dis genre, bon, ben. C'était pas pour moi l'école, j'ai pas eu tant de fun. J'ai pas vraiment envie de retourner là on a tellement besoin de plus de personnes comme toi, comme moi, pour que les autres puissent s'identifier, mais ça reste toujours comme une espèce de petite sphère où est-ce que c'est vraiment très beige, là. C'est très blanc, c'est très... c'est rare que tu vas aller te reconnaître, tu sais. Fait que, mais ça fait aussi en sorte que c'est tellement difficile à avoir à speak up, même quand t'es la personne concernée, parce que tu... C'est ça, ça ne tente pas d'avoir comme justement l'espèce de flag de comme. C'est ça, celle qui stir up some shit parce qu'elle est frustrée, elle est trop sensible, et si, et ça, tu sais, c'est très. Tu sais, le gaslight est comme.
Care,
ouais. Puis, il faut vraiment que les personnes, puis les profs qui travaillent, qui ont justement cette relation-là privilégiée avec les élèves, ils commencent à se mettre à leur place davantage.
Ouais.
Mais il y a plein de choses qu'ils n'ont aucune espèce d'idée parce qu'ils sont comme tellement over-privilégiés qu'ils pensent même pas à ce que ça leur demande d'avoir à speak up, ce que ça leur trigger d'avoir vu ou entendu tel truc. Il y a plein de choses qui sont comme refoulées aussi par l'enfant parce qu'il se dit genre, oh, ça m'a gossé à l'école aujourd'hui, mais je vais faire comme si de rien n'était. Il y a des conflits qui peuvent se passer où est-ce que à la base, ça reste un conflit de... Bon, j'étais au ballon chasseur, on m'a touché, mais finalement, on m'a touché les niaiseries de cours d'école comme on voit à tous les jours. Mais si, admettons, il y en a un qui se frustre plus qu'un autre, là, c'est un jeune blanc, le race card vient vraiment plus rapidement qu'on pense. Le petit qui se serait têté de neck, de chin tuck, de ci, de ça, ça revient, tu sais, ça sort, là. Puis, ce que moi m'a toujours fait vraiment halluciner, c'est l'espèce de tendance de balayer ça. En se disant, il est petit, il sait pas vraiment ce que ça veut dire. Son intention, c'était pas d'être raciste. Je suis comme, ouais, mais he's big enough to say it.
Ouais, c'est ça.
Puis même s'il l'a appris à la maison, est-ce que ça veut dire qu'on devrait justement l'excuser parce que ça vient pas de notre bouche à nous en tant qu'adulte qui est avec lui? Tu sais, c'est vraiment, c'est plein de petites choses qui font en sorte que ça demeure encore difficile de. Pour les jeunes de s'imaginer puis d'aller œuvrer dans ce milieu-là qui est comme vraiment fabuleux et merveilleux, mais aussi qui va justement se perpétuer parce que tout le monde, personne vraiment va se mettre va se mettre le miroir au visage puis faire comme, bon, ben moi aussi, je suis problématique, là. Je suis problématique si je l'ignore, je suis problématique si je le dis, je suis problématique si je ris. Tu sais, dans les triggers de prof, témoin, tout ça, moi, ce qui m'a toujours me heurter, c'est tout ce qui est par rapport au prénom. Au nom, au prénom sur la liste. Moi, je te regarde, puis je suis comme... Ouais. Tu sais, c'est ça. Tu sais, à chaque fois qu'on arrive avec la liste, là, au début de l'année, là, je sais pas pour vous, mais moi, j'avais un petit moton de genre de comme, ah, oh, bon, on arrive à mon nom, ça va être massacré, ça va être devant tout le monde, vouloir que je fasse comme si j'avais pas entendu, vouloir que j'excuse le fait que la prof s'est pas forcée pour le nommer comme du monde. Ouais. Puis, ça se peut aussi que j'aie besoin, genre, de le modifier pour comme compenser la difficulté qui est liée à mon prénom. En me disant genre, ah, ben, regarde, c'est pas grave, prononce-le comme tu veux. Puis moi, à un moment donné, il y a un élève qui m'a dit ça, j'ai fait, oh, mais non, je veux savoir comment prononcer ton nom, tu sais, c'est donc bien important. Mais de par l'inconfort puis l'espèce de petite danse de comme j'ai pas envie non plus de te mettre sur le spotlight, mais ça va faire en sorte qu'on va comme passer ça un peu en dessous du tapis, balayer ça en dessous du tapis, puis on va passer à autre chose, tu sais. Puis moi, ça me fait toujours un peu capoter parce que c'est le genre de truc que je vis encore en tant qu'adulte. Fait que, tu sais, si les enfants, ils entendent ça, puis ils reprennent, tu sais, 20 ans plus tard, là, quand j'étais sur un plateau quelconque, en tout cas pour un projet l'année dernière, puis je sais que c'est pas des personnes avec qui que je voyais, que j'allais recroiser, mais il y avait quand même besoin de nommer mon nom, tu sais, puis le gars a fait une blague. Puis là, j'étais comme... Ça m'a ramené à cette espèce de sentiment de genre comme... Ah, bon, encore... Je suis la risée pour comme 5 secondes, mais ça me fait quand même chier, tu sais.
Ben oui, tellement.
Fait que je trouvais ça quand même fou d'avoir comme 35 ans puis d'être comme encore dans cette situation-là. Puis là, je me dis que ceux qui ont comme 6, 7, 8, 12... C'est comme ça arrive à chaque année, à chaque rentrée. C'est la même chose comme quand ils rencontrent tes parents. Puis des fois, on a comme un... Moi, je me souviens que j'avais toujours une espèce de petit stress de savoir comme est-ce qu'il va y avoir une barrière langagière ou de jugement qui va être porté de par la manière comment mes parents vont réagir ou comment ils vont, ils vont, c'est ça, écouter ou être présents ou pas présents. Hein, parce que, tu sais, dans le fond, ce que je remarque beaucoup, en fait, que j'ai remarqué avec les années, c'est que... Quand on vient pour parler, mettons, des cas d'élèves, puis on dit, bon, ben les parents sont super impliqués, ils posent des questions et c'est ça. On s'imagine le genre de parents qui est derrière. Hein, deux parents qui travaillent, qui sont des professionnels, qui sont blancs, qui sont aisés, tout ça, puis qui ont comme juste ça à donner comme temps. Puis ceux qui travaillent dans le milieu de la santé, qui sont en struggle ou qui ont comme 4-5 enfants à la maison en bas âge, puis qui ont... pas nécessairement de gardienne ou de support system parce qu'ils sont immigrants de plein de générations. Tu sais, toute cette espèce de situation, là, de cadre qui est derrière ces familles-là, ben on va quand même dire « Ah, mais l'enfant n'est pas supporté à la maison. C'est pas facile. » Mais pas avec une espèce de regard empathique, plus un genre de comme « Ils le font eux-mêmes, c'est pas drôle. Hein? » Mais des fois, il va y avoir comme des jugements associés ou des liens qui se font entre eux. Ben, il serait sûrement meilleur en lecture s'il lisait plus à la maison. Oui, mais c'est parce que d'aller à la bibliothèque, puis d'aller à la librairie, puis de pouvoir comme fréquenter le milieu culturel, ça coûte de l'argent, ça demande du temps. C'est pas le genre de struggle que moi, en tout cas pour mes parents qui étaient immigrants, première génération, réfugiés... à cause de la guerre au Rwanda, puis, tu sais, c'était pas, leur souci était pas à être à côté de moi, puis à me flatter en sens du poil, puis à être comme en mode cheer. Ils étaient en mode survie pendant un méchant bout de temps. Fait que, tu sais, de se remettre dans cette voie, dans cette perspective-là, en disant genre comme, hey, je vais slacker sur le fait qu'il n'y avait pas signé sa dictée ou le fait qu'il ne soit pas pointé à la rencontre de parents, ça se peut qu'il y avait vraiment d'autres struggles, là, tu sais, puis... avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense à la rentrée qui s'en vient, puis les enfants que je vais avoir dans ma classe qui viennent d'Haïti, qui viennent d'Afghanistan, qui viennent de la Syrie, qui viennent palestiniens. Tu sais, c'est comme, c'est fou ce qu'on n'imagine pas, ce qui est vécu, mais c'est parce que, justement, la majorité des profs ici, ils sont quand même dans une espèce de bulle privilégiée qui... ils ont plein de bonnes intentions, mais que ça fait quand même en sorte que t'as beaucoup d'angles morts, bien plus que mais si t'étais moindrement comme proche de ces réalités-là, tu sais.
Je pense qu'on aime penser que l'école, c'est un safe space puis un terrain neutre, mais c'est tout sauf ça, là, je veux dire. On fait croire qu'il y a comme une fausse méritocratie en mode, tu travailles fort, tu vas avoir tout ce que tu veux, mais l'enfant qui a pas la possibilité d'aller à la bibliothèque, se chercher des livres pour lire à l'école ou après l'école, il y a pas les mêmes chances que celui dont les deux parents vont lui acheter une bibliothèque de livres à chaque anniversaire puis tout ça. Fait que c'est comme, on fait fi des inégalités puis des systèmes de pression, puis on s'attend à ce que tout le monde réussisse de la même manière, alors que même les professeurs ont des biens conscients puis sont pas capable de se mettre dans les pieds d'enfants qui ont pas été élevés dans le privilège, tu sais. Fait que c'est genre, je pense que, comme t'as dit, les profs ont plusieurs angles morts, mais je pense que c'est nécessaire qu'on prenne un step back à chaque fois, tu sais, à chaque fois que tu rentres dans la classe. Tu sais, je suis pas prof, là, fait que c'est facile de dire ça pour moi, donc je peux pas me mettre à la place d'un professeur, mais moi, je peux me mettre à la place d'une jeune ou d'un élève qui a 5, 6, 7, 12 ans, puis qui pensent que l'école, c'est un safe space et ce n'est pas parce que ses professeurs ne sont pas au courant que ce n'est pas correct de polir ses cheveux, par exemple. De dire qu'il parle beaucoup trop fort alors que tout le monde parle fort, mais c'est parce que je sais quoi, je suis une petite fille noire que tu me dis ça à moi personnellement. Ouais. Tu sais, il y a aussi un phénomène d'adultification qui fait en sorte
incroyable.
Que genre...
Ouais.
Les élèves, en fait, les profs, les enseignants, les adultes, les parents, même les forces de l'ordre, là, peuvent avoir comme être moins protecteurs envers certains types d'enfants, mm-hmm. puis plus punitifs envers d'autres.
Ouais.
Je pense que j'ai pas besoin de le dire explicitement, on a tous compris. Fait que c'est genre, on a tous des angles morts, mais faut réaliser que si ton emploi, c'est littéralement d'avoir, c'est comme d'élever des ouais. enfants, basically, là, genre, tu passes des heures de ta ouais. journée avec les enfants d'autrui. La moindre des choses, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent safe en prenant compte de ses propres privilèges, puis en faisant l'effort conscient et intentionnel de comme déconstruire des trucs au quotidien, parce qu'au final, tu as un impact tellement important sur ces petits humains-là qui vont dans 20 ans, se rappeler de leurs expériences traumatisantes ouais, à l'école. Ouais. Fait que c'est ouais. vraiment plus deep qu'on le pense, là, je pense.
Ouais.
Ouais.
Puis au-delà, tu sais, même du personnel des enseignants, il y a aussi toute l'administration, la direction, mm-hmm. les réformes, les programmes, ceux qui conçoivent aussi tous les ateliers, les campagnes de sensibilisation. Tu sais, ça va au-delà aussi des enseignants, même si c'est les ouais, premiers, ouais. premiers acteurs. Mais justement, on peut peut-être faire... Une petite mise en contexte sur c'est quoi justement l'éducation antiraciste. Mm-hmm. Je sais que tu avais écrit un article sur ça, fait que tu pourras nous vulgariser, mais j'ai pris le temps de regarder un peu c'était quoi les distinctions, parce que c'est ça, on parle de plus en plus, oui, en proche antiraciste, anti-oppressive, anti-discriminatoire, mais de ce que je voyais, c'est que ça s'est développé au Canada un peu en même temps qu'aux États-Unis dans les années 70, puis c'était principalement en réaction aux limites qu'on avait perçu de l'éducation multiculturelle puis de l'éducation à la citoyenneté. Donc, mm-hmm. deux types d'éducation que, justement, beaucoup de théoriciens ont dit « Ah, il y a certaines lacunes dans ces deux types d'éducation-là. » Fait qu'ils se sont... Ils ont comme développé de ce penchant antiraciste. Puis quand on parle, justement, d'approche antiraciste, ce qu'on entend, c'est principalement, c'est le développement de l'engagement, d'un engagement actif puis d'un esprit critique qui vise à créer un milieu de vie puis une société plus égalitaire. Fait que ce qu'on entend vraiment là, par ça, c'est de transformer autant les attitudes que les pratiques des institutions. Puis ça, ça a été dit par la professeure-chercheure Maryse Potvin, là, qui dit ça nécessite une analyse de la production et de la transmission du racisme dans chaque milieu. Parce que eux, en fond, ce qu'ils trouvaient qu'il manquait un peu à l'éducation multiculturelle et à l'éducation à la citoyenneté, c'est que c'était peut-être trop axé sur l'individuel, puis on accepte, on est multiculturel, pluralisme, je crois.
Ouais. Mm-hmm.
C'est tout ça, mais c'était pas vraiment... Il n'y avait pas d'analyse critique en tant que telle, puis on parlait pas vraiment de la race. T'sais, il disait que souvent, la terminologie était beaucoup... ils vont pas utiliser le mot racisme là, ou ils vont pas t'en parler d'exclusion. Ils vont plus dire « Oh, regardez la belle mosaïque qu'on forme ici au Québec. »
Ouais, parce que tu sais, le système d'éducation nous apprend même pas à challenger la manière dont notre société fonctionne. C'est juste, on nous apprend l'histoire d'une manière full whitewashed. On nous met pas au courant des réelles injustices auxquelles comme les personnes noires et autochtones et juste racisées sont confrontées en raison du colonialisme. Puis il y avait une quote... c'est une OBNL qui s'appelle Illuminative, qui dit que ne pas enseigner aux étudiants les injustices auxquelles les Noirs et les Autochtones sont confrontés en raison du colonialisme est un effacement consciencieux de l'histoire qui profite à la suprématie blanche. Fait que si on fait rien, comme j'ai dit au début, pour démanteler concrètement la suprématie blanche à même les bancs d'école, on est clairement un peu fucked, parce que comme on nous apprend...
On parle de la source aussi, hein?
Ben, c'est ça. On parle de la source, là. Ouais. Genre, si tu vas enseigner l'histoire du Canada, dis les vraies affaires, au moins, pour qu'on soit pas en mode...
Comment?
Les Canadiens français ont sauvé... Genre, non, comme, stop de bullshit, là.
Stop de bullshit, puis moi, ça a fait en sorte que j'ai vraiment une difficulté immense, là. Je commence mes cours, là, d'histoire du Canada, parce que le programme, vraiment, il est comme sectionné là, avec mm-hmm. le programme de la progression des apprentissages. C'est qu'on part de telle année, puis on étudie telle société, puis après ça, on part à un autre bloc là, de troisième, quatrième, cinquième. Puis la troisième année, c'est les Premières Nations. Puis là, c'est comme tout beau. C'est très exotique. Ouais, là, par contre, là, c'est vraiment très stéréotypé. C'est pas très deep. Mais ça reste quand même que c'est comme c'est le seul moment où est-ce qu'on a quand même une... we acknowledge that they were there. Puis après ça, on passe...
And they're still there, by the way.
Puis là, à un moment donné, comme... Moi, c'était fou, je voyais mes cahiers, puis là, j'étais comme... OK, donc là, on montre un tableau de démographie, puis là, on parle des Premières Nations qui sont là, puis sont comme, genre, 200 000. Puis là, après ça, je change de page, je change de module. Ah, là, ils sont comme 10 000. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Puis il n'y a rien qu'ils nomment, rien du tout. Puis là, je suis comme, genre, are you... fucking kidding me?
What?
Comme comment je dis, puis moi c'est sûr que dans mon verbatim puis dans mon programme, c'est pas écrit que je devrais dire que ça a été un génocide sanglant, et c'est écrit nulle part. Moi je le sais, puis même il fut un moment où est-ce que j'avais de la difficulté à le nommer, parce que j'étais comme est-ce que c'est trop harsh et tout ça, c'est comme cette espèce de justement qu'on essaie de pas nommer les vraies choses pour pas blesser ni les enfants qui sont devant nous, ni trop les traumatiser, sans nommer non plus, comme souvent il va y avoir aussi, tu sais, j'entends le mot suprématie blanche pendant quand même jusqu'à tout récemment, je trouvais que le mot était peut-être trop intense, jusqu'à temps que je me rende compte de, ben, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est de la suprématie, tu sais, c'est comme... c'est nous autres qui dominent, c'est nous autres qui gèrent. Je suis comme, ah, ben c'est le même, ça s'appelle. Un peu comme le mot féminisme, là, on s'entend qu'il n'y a rien de devilish dans ce mot-là. Donc, le fait de parler de génocide, j'ai comme, ben c'est ça pareil. Oui. Fait que là, je le nommais aux élèves. Mais en même temps, étant donné que je n'avais pas de matériel tangible à leur donner pour qu'ils puissent l'étudier puis l'apprendre et tout, ça restait toujours comme une espèce de conversation entre les quatre murs. Puis ça, c'est moi qui décide de le faire. Là. C'est Benita dans son groupe, entre le local tel, entre ces quatre murs, avec ses 30 élèves... non, pas 30 quand même, vingtaine d'élèves. Mais est-ce que dans la classe à côté, ça va être la même chose? Puis dans l'école à côté, non, parce qu'on n'a pas le matériel. Puis le programme est tellement whitewash, il est tellement colonisateur, il est vraiment inadapté, puis il est mensonger. Jusqu'à tout récemment, on a commencé à essayer justement d'apporter des parties un peu plus réalistes, puis un petit peu plus proches de la part des communautés aussi, là, pas juste de parler des traumas puis des parties super dark de l'histoire, mais ça reste quand même que faut tout que je le fouille, il faut que je le documente par moi-même, il faut que je le montre, il faut que j'aille le chercher, il faut que j'essaie de le placer aussi avec le reste des connaissances pour pas que ça vienne pénaliser, parce que l'année d'après, je sais pas si ça va être enseigné avec cet angle-là. Là, moi, j'ai vu une différence parce que je l'ai vraiment comme assumé, puis je l'ai partagé, puis j'ai vu que ça s'est fait quand même dans quelques classes et avec d'autres outils, mais il fallait que je bûche, puis il fallait que je le fasse sur mon propre temps, puis il fallait vraiment que j'aille le documenter, chose qu'on aurait dû me fournir, parce que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie aussi de la responsabilité de l'administration et du programme du ministère qui veut réformer mille et une affaires au goût des gouvernements qui changent, et que cette partie-là qui est statique et qui est factuelle ne l'est pas. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait halluciner que depuis la réforme, depuis 2000, c'est 20 ans quand même, qu'il n'y a eu aucune réforme par rapport à cette vision-là, que maintenant, on est capable de nommer très bien avec le recul qu'il y a des choses fucked up qui se sont faites de par les grands noms et les personnages marquants qui sont dans leur cahier. Mais c'est encore... à la discrétion de chaque enseignant de le nommer ainsi, mais on va venir ajouter l'éducation sexuelle, qui est ultra importante aussi. Oui. Mais quand est-ce que c'est arrivé, ça? Après MeToo? C'est comme ça a pris combien de temps avant qu'on commence à parler, puis à remettre de l'avant l'éducation sexuelle, puis le consentement, puis toutes les discussions pour les différentes identités, puis les stéréotypes de genre qui sont véhiculés. C'est vraiment, vraiment récent, mais ça fait quand même vraiment longtemps que c'est problématique. Donc, il y a toujours comme des événements d'actualité, ce qui est correct aussi parce que ça évolue, mais il y a quand même toujours besoin qu'il y ait une victime, si c'est pas 12 000.
Oui.
Pour qu'ils puissent avoir justement ce changement de regard-là. Puis c'est porté sur les épaules de personnes qui sont mal formées pour le faire. Donc, c'est sûr que de mon côté, ça ne me dérange pas parce que ça m'anime, puis ça me motive à, T'sais, enseigner l'histoire du Canada maintenant, ça me dérange moins mm-hmm. parce que j'apporte cette vision-là. Puis ouais. j'ai vraiment, je suis allée chercher les outils que est-ce que c'est 100% legit de le faire? I don't care parce que je raconte la vérité. Ouais. Puis une chance qu'il y a des plateformes qui ont commencé à sortir pour justement venir mettre de l'avant les peuples autochtones, parler des grands noms. Je pense à tout le travail que Télé-Québec fait mm-hmm. avec Briser le code. Puis il y a plein de choses que ça a apporté comme une espèce d'éveil. Puis ça rend tout ça encore plus actuel, encore plus intéressant. Puis ça l'ouvre les yeux. Ça l'ouvre les yeux aux profs et aux élèves qui sont là où est-ce qu'ils like, they feel seen. Enfin, là, tu sais.
Puis est-ce ouais. que... Est-ce que, justement, dans cet engagement-là que tu fais, est-ce que tu as déjà reçu de la résistance de la part des parents ou d'autres intervenants? Parce que je voyais, justement, que dans le peu des enseignants racisés, quand il y avait soit des dénonciations ou qu'il y en a qui s'engageaient activement, il y avait soit des représailles ou parfois ils étaient même limités là, dans leur, ouais. Leur avancement professionnel. En fait. Mmh. Est-ce que tu as déjà vécu ça?
Personnellement, non, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas lieu. Ça ne veut pas dire qu'après la diffusion, je n'aurai pas un petit appel de mon centre de service ou quelque chose, mais je parle au nom. Je parle en mon nom aussi, là, puis fait que je m'assume 100 % mais je pourrais pas dire, mais en même temps, on dirait que je fais pas tant confiance. Bien, je fais confiance à la bonne volonté de tout le monde, mais je suis pas dans tous les milieux. Je sais qu'il y a des trucs problématiques. Je sais qu'il y a des parents qui ont des visions, justement, tellement... non collaborative envers les enseignants à la base, que ça pourrait être un penchant à un moment donné que je tombe sur un qui est pas d'accord avec le fait que j'enseigne telle chose de telle manière. Dans mon milieu, en ce moment, c'est pas du tout ça, au contraire. Mais je suis quand même dans une bulle de par le quartier où j'habite, de par le milieu dans lequel j'évolue, puis aussi le discours ambiant. Mais, tu sais, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont en région ou quoi que ce soit, ça se pourrait là, qu'ils se sentent un peu piqués au vif là, en entendant ça ou en sachant que ça fait partie du programme. Mais, tu sais, comme dans une de mes leçons ou en début d'année, où est-ce qu'on apprenait toutes les régions administratives, puis comme les villes, les capitales, peu importe la géographie, on nommait aucunement les peuples autochtones qui vivaient là, comme mes élèves étaient capables d'en nommer zéro. Puis même moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais capable d'en nommer zéro puis pas les placer sur une carte. Fait que j'ai fait, ben voici le territoire qui a été volé et voici qui techniquement est censé d'être là et voici comment on les nomme et on les nomme. Voici ce que vous allez apprendre. Fait que si on m'envoie des rushs parce que je veux leur faire nommer des peuples qui existent et qui méritent d'être vus, ben, throw your stone, I don't care.
Ouais, vraiment.
Fait que c'est rendu là, je sais que c'est tout ce que je fais et je prône est défendable. Je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui sont pas encore à l'aise avec le fait d'être confrontées puis d'être called out pour des trucs. Ben, pour vrai, ton inconfort, il me dérange pas le moins du monde. Puis j'aimerais mieux que tu ailles cry your white tears away from me. Like, c'est aussi comme...
Ou sit with discomfort, puis comme...
Ouais, genre, Marine, c'est avec ça, puis comme... Ouais, appelle-moi plus, là. J'ai dit ce que j'avais à dire.
Vraiment.
T'as dit tantôt, est-ce que c'est trop harsh, trop violent d'apprendre cette vérité-là aux élèves, mais je veux dire, il y a des élèves, des jeunes enfants qui vivent le racisme, ça, c'est harsh. Apprendre... Tellement. À être antiraciste, c'est comme littéralement la moindre des choses.
C'est la moindre des choses, puis on s'entend que ça prouve à quel point t'es dans la ouate d'avoir juste à n'entendre parler au lieu de le vivre. Oui. Fait que c'est comme genre pour vrai.
Comme toi, chanceux.
Laisse-moi tranquille, là.
Et puis c'est aussi un cadeau vraiment que tu fais de ton temps, de ton énergie, de ton labeur intellectuel, émotionnel, prendre le temps, genre, de trouver ces ressources-là extra. Curriculum, whatever. Parce que, évidemment, je veux dire, je pense pas que le curriculum est fait pour avoir un réel apprentissage au niveau de la diversité. Ouais. Puis, j'aimerais t'entendre là-dessus. Ça ressemble à quoi l'apprentissage au niveau de la diversité à l'école, qu'on parle de diversité physique, culturelle, tout ça, là?
Je dirais que. Il y a une ouverture depuis, en fait, tout ce qui est comme, dans le fond, avec les cours d'éthique. Tu sais, dans le fond, toutes les discussions qui sont au niveau de l'éthique et de vivre ensemble, ça fait en sorte qu'on a un discours, de manière générale, là, sur l'ouverture, sur l'acceptation des différences. Je dirais tout ce qui est comme neurodiversité est quand même assez mainstream, là, comme quoi, surtout au niveau primaire, là, parce que des enfants qui ont des déficits d'attention, qui ont des troubles de comportement ou qui ont un handicap ou de la douance, ou puis même encore là, c'est comme relativement nouveau, mais ça reste quand même quelque chose que vu que c'est tellement relatable, puis comme ça n'a pas de ça fait aucune discrimination au niveau de la race, quoi que ce soit, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus abordé. Pour tout ce qui est différence de couleur, ça va être un peu kumbaya, OK? Dans le sens où est-ce qu'on va adresser le fait que, ben, on ne voit pas la couleur de peau, on est tous pareils et tout. Puis, oui, là, mais non, là, tu sais, il y a quand même des. Je pense que là où est-ce qu'on n'est comme pas encore tout à fait prêt à l'encaisser, c'est que ça cause des difficultés dans le futur pour différents accès. Mais ça crée encore des discriminations qui sont conscientes ou inconscientes et qu'il y a un moyen de l'arrêter. Puis c'est vraiment... It's not on us. T'sais, c'est comme le racisme est un problème de blanc. Et c'est ça, à nous autres aussi d'être actifs par rapport à ça. T'sais. Puis au moins de le reconnaître qu'on fait juste le nommer et puis de pas justement
l'ouvrir. D'être à l'écoute, d'être sur la défensive.
Voilà. Fait que moi, je pense que ça fait son œuvre. Mais c'est sûr qu'au niveau de juste la présence de diversité, ben déjà comme physiquement parlant, ben les enseignants ou les intervenants sont majoritairement blancs. Fait que déjà là, une représentativité de moins. Dans les livres, il y en a vraiment, vraiment, vraiment très peu. Il y en a un petit peu plus. Moi, je vois la différence. Je vois quand même qu'il y a un effort qui s'est
mobilisé. Tu passes de 0 à 2, là, c'est sûr que ça fait une différence.
Exactement. Puis, ça reste toujours que... Non, je regardais parce que justement, j'ai comme un article qui mijote parce que justement, je veux voir comme, OK, ça fait un an et quelques, là, comme on en est où, là, après tous vos carrés noirs là, sur Instagram, là, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Puis, qu'est-ce qui s'est passé dans ta bibliothèque depuis que tu as lu, justement, parce que je vais quand même me donner ça. L'article que j'ai écrit pour J'enseigne avec la littérature jeunesse, ça a quand même fait une espèce de voile qui s'est levée. Puis,
on va le linker dans l'épisode.
Ah, c'est fun. Oui. Mais tu sais, c'est quelque chose vraiment que je trouvais important et que j'avais pas encore cette lunette-là. Mais là, maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enseignantes qui l'ont. Puis ça m'enchante vraiment beaucoup. Oui. Mais ça reste que au niveau des auteurs et des autrices qui sont derrière ça, ou ceux qui sont derrière les maisons d'édition, puis ceux qui sont les décideurs, puis ceux qui... Il y en a encore peu, là. C'est comme dans n'importe quel milieu culturel, là. T'sais, c'est pas parce que tu mets un acteur noir qui, nécessairement, est bien représenté. Est-ce que le message, c'est un message de white saviorism qui est derrière? Comme toutes ces questions-là, il y a plein de monde qui sont pas encore rendus là. Mm-hmm. Fait que c'est clair que pour moi, ça me demande un effort de le faire, mais ça m'anime tellement et ça m'agresse tellement de voir que c'est comme, OK, tu peux te flatter dans le sens du poil comme quoi t'as utilisé un album en disant que comme bon, il y a de la diversité dedans, mais t'as fait quoi après avec cette information-là? Puis t'as fait quoi de plus que d'acheter cet album-là puis d'en parler? Ou t'as fait quoi par rapport aux personnes qui sont devant ta classe ou le parent ou ton collègue de la classe à côté? C'est comme genre, what else? What else? Mm-hmm. Tu sais, puis jusqu'à maintenant, ça me dérange pas d'être comme la porte-parole puis grosse guillemets parce qu'il y a quand même quelque chose qui me gosse là-dedans parce que je veux pas être le poster child ni parler pour tout le monde parce que je sais que mon expérience est ultra privilégiée aussi. Mais
c'était mettre beaucoup de pression aussi,
oui,
là.
Oui, puis en même temps, je suis quand même... Ouais, c'est ça, tu sais, il y a des moments où est-ce que je sens quand même cet épuisement-là, que je sens un peu comme si, ben, il fallait que je dise quelque chose, il fallait que que ma parole est attendue, entre guillemets.
Ouais.
C'est quelque chose que je sens qui pourrait m'épuiser à la longue. Pour l'instant, c'est pas le cas. Quand je vais le sentir, c'est sûr que je vais shut it down assez vite, là, parce que je suis quand même pas... Je suis pas quelqu'un de très complaisant non plus ou qui va comme essayer de faire des trucs pour faire plaisir aux gens ou pour comme bien paraître. Là. C'est pas quelque chose qui me... je m'en contrefous. Non, ça m'intéresse sincèrement pas. Ouais. Mais ça reste quand même que je trouve ça important que ce soit... Que les choses qu'on nomme soient nommées par les bonnes personnes. C'est une des raisons pour laquelle que quand j'ai écrit l'article justement dont je parle... on avait déjà remarqué qu'il y avait peu de représentativité dans les œuvres de littérature, puis des œuvres jeunesse aussi, ou des représentations vraiment problématiques là, avec des petits Indiens avec la peau rouge. Oh. Puis ça, j'en ai vu encore dans les bibliothèques tout ça. Mais c'est parce qu'on dirait que si c'est dit par les personnes dominantes, soit ça va être praised comme si genre t'étais comme l'élu, le messie là, de la patente, ou ça va être encore plus amplifié, ou ça va être vraiment comme encore plus partagé parce que c'est des gros noms qui vont justement porter ce message-là. Mais ça va me gosser davantage que d'avoir à jouer ce rôle-là.
Ouais.
T'sais, fait qu'il y a quelque chose qui me dit genre comme « I'd rather it be me
»
que d'avoir à entendre les mêmes choses qu'on dit par d'autres mondes parce que ça sonne mieux, t'sais. Fait que c'est, pour l'instant, c'est comme si c'est de même que je me situe dans ce que je fais comme activisme, là, puis grosse guillemets comme activiste, mais quand même, je me rends compte de plus en plus que de par le fait d'être debout dans ma classe devant vous ou, tu sais, juste entre mes quatre murs avec mes élèves, j'ai quand même ce pouvoir-là, tu sais. Puis je lisais quelque chose dernièrement où ce que ça disait comme « Teaching is a political act », tu sais, c'est comme c'est un acte politique, ce que je véhicule à chaque fois, c'est quand même, plus ça va, plus je me rends compte que ça a sa teneur, ça a cette couleur-là, puis ça a cette influence-là après pour les enfants qui sont devant moi. Fait que tant mieux si ça continue d'une année à l'autre, mais c'est souvent à recommencer ou c'est souvent à détricoter une fois que les enfants sont à la maison ou qu'ils s'en vont au secondaire, plus ça devient comme une autre game, là, un autre issue. Là. T'sais, en ce moment, on a beaucoup d'enfants qui veulent encore plaire, qui veulent encore faire partie de leur communauté et tout ça, rendus au secondaire. Moi, en tout cas, de mon côté, ça s'est ghettoisé, là, comme ben raide, là. Mais justement, parce que les systèmes d'oppression étaient vraiment plus flagrants, plus violents, plus... T'as plus rush, tu veux aussi t'identifier, tu cherches aussi. Fait que moi, c'est là que j'ai commencé vraiment à plus me tenir avec des gens qui me ressemblaient, puis justement avoir encore plus ces espèces de manifestations-là de différence comme la clique des Blacks, la clique de basket, la clique de ci, tu sais, c'est des choses qui, ça, sont pas disparues du tout, tu sais, puis ça fait encore des clashs, là, tu sais, fait que c'est comme si vraiment il y a un long chemin encore à faire, là.
Oui. Puis justement, tu sais, souvent, c'est ça, on dit que ça commence par l'éducation à l'école. Toi qui es enseignante, puis justement, tu as le langage adapté pour les enfants, justement parce qu'on l'explique pas comme on l'explique ici, là, ensemble, les trois. Mais justement, avec un enfant qui te questionne, comment tu fais pour justement comme l'informer réellement sans tomber, c'est ça, dans le discours sugarcoat, là, de on est dans l'acceptation et tout. T'sais, comment tu fais pour bien vulgariser ça?
Avant, je le laissais un petit peu plus dans justement cette espèce de what-là parce qu'on dirait que je ne le savais pas exactement si j'avais envie de porter ce message-là. Parce que je suis quand même consciente de mon pouvoir d'influence. Puis je sais pas pour vous, mais moi, je me souviens que comme quand j'étais au primaire, la parole de ma prof, là, c'était comme... Ça valait tout. Là. C'est comme ça venait canceller tout ce que maman pouvait avoir dit. C'est comme genre, mais Madame Nicole, elle pense ça.
Fait que, tu bois ses comme, paroles.
Oui, vraiment. Fait que je le sais aussi que Le niveau de maturité puis le niveau de conscience de l'enfant, c'est sûr que s'il est en deuxième année puis il a 8 ans, puis là, je lui dis, ouais, mais on vit dans un monde suprémaciste blanc, où est-ce que... Ça peut être un peu rush après ça être rapporté, puis ça peut être misinterprété par le parent, puis des fois, si t'as comme pas nécessairement comme envie d'avoir à tout défaire. Moi, j'enseigne avec des élèves plus vieux quand même, là, qui sont entre 10 et 12 ans. Là.
Okay.
Et que c'est quelque chose que je pense être capable de pouvoir nommer avec les vrais mots, mais aussi en essayant de garder comme un regard un peu plus d'espoir, si on veut, comme quoi, ben ça, c'est quelque chose qui arrive ou qui peut être nommé de cette façon-là. C'est de même que ça s'appelle. Je me dis aussi que t'sais, ça va peut-être faire juste sa petite graine dans son esprit. On va passer à autre chose parce qu'il y a mille et une choses qui se passent dans un après-midi au primaire. Fait que ça va pas nécessairement comme rester teinté éternellement non plus dans son image ou dans un moment XY à l'école. Mais je trouve ça vraiment important de nommer les choses, t'sais, puis d'être capable aussi que l'enfant assume ce qu'il a dit, même si peut-être qu'il se rendait pas compte de l'impact que ça avait, tu sais. Puis j'ai déjà intervenu avec un jeune qui avait traité un autre de mes élèves de fif. Je savais que ni un ni l'autre, de toute façon, trop jeune pour assumer l'identité ou d'une orientation, quoi que ce soit. Mais j'avais été vraiment piquée au vif, puis j'aurais pu le prendre au même niveau que s'il avait traité de cave. Ouais. Mais dans ma tête, c'était pas le même niveau d'intensité, tu sais. Fait qu'il fallait que mon impact, en tout cas mon intervention, il fallait qu'elle soit assez impactful pour qu'il se rende compte que c'était ça. Fait que là, j'ai fait faire une réflexion sur c'était quoi l'homophobie, puis j'ai demandé de travailler à la maison, ouais, puis de soit me faire une présentation devant toute ma classe, ouais, ou devant le directeur. Je vais choisir lequel des deux, mais au moins tu vas t'éduquer.
Ouais.
Puis je voulais qu'il sache que c'était de l'homophobie. Puis même si c'était un élève qui était comme même pas de mon groupe, là, puis je me dis, même si le parent me revient avec ça, je me dis, ben c'est ce qu'il a dit. Puis s'il était en âge adulte, c'est exactement ce qu'on assumerait. C'est exactement le même genre de parole, c'est la même violence. Même si l'enfant s'est pas senti lésé nécessairement dans son orientation ou quoi que ce soit parce qu'on n'était pas dans ce genre de conflit-là, mais ça restait quand même que... C'est le même, ça s'appelle, je vais le nommer comme ça. Puis s'il y a un problème avec ça, bien tant pis, tu sais, c'est au moins maintenant tu sais, reproduis-le pas. Fait que c'est vraiment quelque chose qui, moi, me dérange pas de le nommer, même si c'est un enfant qui est en première année. Bien, dire que ces paroles-là, tu sais, traiter tel de chin-talk, bien, c'est raciste. Mm-hmm. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est du racisme anti-asiatique. Même d'appeler un enfant chinois quand il est vietnamien, puis c'est pas grave, c'est la même affaire. Bien, je m'excuse, c'est raciste, là, puis on arrête ça là maintenant. Puis d'avoir la même espèce de montée de lait que si c'était quelque chose qui était sexiste, qui était balancé.
Parce que c'est grave.
C'est grave. Puis le fait de banaliser pendant si longtemps, ça fait en sorte qu'il est rendu en ce qu'on a recarte, là, ça ne dérange plus non plus, parce que si j'avais fait call-out toutes ces années-là en se disant, genre, ben c'est un enfant, puis il ne croyait pas, puis il était fâché, puis non, moi, dans ma tête, c'est comme, non, cut the bullshit, là, on règle ça. Puis je trouve ça vraiment important de que les enfants soient capables de l'assumer rapidement. Puis ça ne va pas faire en sorte que cet élève-là, je vais dire que tu es un raciste, monsieur tel, de la classe de tel, pas du tout, tu sais. Puis ça, c'est vraiment important de ne pas non plus y aller trop raide pour que l'enfant ne l'associe pas à son caractère, à son identité, à ce que les autres pensent.
Mm-hmm.
Mais ça reste quand même que c'est un geste et c'est un comportement. Puis c'est celui-là que je veux adresser, puis je veux le nommer comme du monde pour que tu puisses après l'assumer puis and move on après ça. Exact. T'sais?
Puis justement, à ton propre enfant, à ton petit garçon, comment tu l'expliques? Parce que lui, c'est ça, tu disais qu'il allait avoir bientôt 4 ans.
Ouais.
Fait qu'est-ce que toi, d'emblée, t'amènes ces thématiques-là, mais là, pas du même niveau que les enfants de 10-12 ans, mais est-ce que t'en parles? Est-ce que t'attends qu'il te questionne quand il va entrer à l'école?
C'est le petit côté où est-ce que c'est mon angle mort, parce que c'est mon enfant, là. J'ai aucune espèce d'idée. Oui, c'est ça, tu prends des notes. Tu prendras pas grand-chose en note parce que j'ai aucune espèce d'idée comment je vais l'adresser. Il est encore vraiment très jeune. Moi, mon copain est québécois, il est blanc. Donc, mon fils est quand même relativement pâle, fait qu'il est très white passing. Je suis très consciente qu'il y aura pas nécessairement les mêmes enjeux, impacts. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas aussitôt. Puis ça va dépendre aussi de quel garçon on va grandir. Je pense attendre qu'il soit en âge d'être capable de bien l'assimiler, là.
OK.
C'est sûr que mon meilleur véhicule, c'est toujours la littérature jeunesse. Fait que quand je vais voir que les livres qui s'adressent à... qui adressent ce genre de issues-là va pouvoir, comme, faire partie de son... De son bassin, là, de livres qu'il aime lire, ça, c'est sûr que je vais passer par là. Mais, tu sais, ce que je trouve vraiment dommage, puis là, ça se peut que je vienne émotionnel un peu, mais c'est que ça risque... En fait, les circonstances puis les contextes risquent de le dépasser. Tu sais, mettons, si je me dis, genre, comme 5-6 ans, quand je vais tomber sur tel livre, je vais m'asseoir à côté de lui, puis on va lire... Puis, tu sais, ce qui est dommage, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont pas encore traduits, mais je sais qu'il y en existe. Il y en a un qui s'appelle « This book is anti-racist », que je en tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il va être traduit relativement bientôt, mais il y en a d'autres qui s'appellent A Book About Racism, A Children's Book About... En tout cas, il y a comme plein de sujets sur...
Il y a Anti-Racist Baby.
Oui, c'est ça, il y en a plein. Fait que je me dis que d'ici là, ça se peut qu'il se rende. Puis à ce moment-là, je m'assois, puis je vais le lire. Puis on s'entend qu'il lit des livres avec moi depuis que 2 semaines. Là. Donc, c'est sûr que ça sera pas sorti de nulle part. Mais ce que je trouve vraiment triste, ce que je trouverais triste, c'est que il soit confronté à un épisode raciste avant même que moi je m'assoie pour le lui exposer de manière douce, bienveillante, informative et comme en famille, tu sais. Comme ma copine qui ça, puis là c'est ça, je vais devenir émotionnel parce que sa fille est comme la mienne là. Ben à 4 ans, elle s'est fait dire à la garderie qu'elle était pas belle parce qu'elle était noire, tu sais. Elle avait 4 ans là, tu sais, fait que c'est comme genre oh faut déjà que j'aie cette conversation-là. Puis en plus, c'était trompe parce que moi, je me souviens de cette conversation-là il y a justement 30 ans. Tu sais, fait que c'est vraiment très difficile de voir que c'est encore relativement pareil. Peut-être que ça sera pas aussi balayé en dessous du tapis que ça l'était, mettons, à mon époque. Mais c'est sûr que ça va être plus harsh parce que c'est ça. C'est comme, moi, c'est mon côté, j'ai mon chapeau professionnel, puis je suis très assumée, puis je sais où je m'en vais. Mais quand ça devient ton kid, ça devient autre chose, là. Tu sais, ça se peut que je sois vraiment plus lionne. Ça se peut que je sois vraiment plus blessée. Ça se peut aussi que je vais quand même encore un petit bout le protéger pour pas qu'il soit comme en mode over-analyzing et tout ça. Je pense qu'il est quand même bien entouré puis il est comme dans un bon milieu pour que ça devienne pas nécessairement un événement aussi traumatique que nous, parce que peut-être que nous, c'était plus fréquent. Tu sais, l'époque où on était, moi, j'étais à Québec, où est-ce qu'on était peu de familles racisées aussi. Tu sais, on était trois dans mon école, puis il y avait mon frère, ma voisine à côté, dans tout ça, là. Puis sinon, tu sais, je le sais que ça sera pas nécessairement sa réalité, mais en même temps, il y a comme ce côté-là que je veux qu'il s'identifie à, justement, ces luttes noires-là. Mais... Du côté de la lutte et non pas du côté de genre je reçois les balles, tu sais, je sais pas si tu comprends. Mais c'est ça, moi je voudrais qu'il soit quand même dans cette espèce d'éveil-là puis de vouloir s'identifier justement aux personnes noires qui sont vraiment dope, là, tu sais, puis mais c'est pas, tu sais, c'est dur à dire comme à ce stade-ci. Puis ça va me demander du travail aussi parce que c'est sûr que plus ça va, quand on est immigrant première génération, deuxième, troisième, à un moment donné, il y a un petit fade-out qui se fait là, un peu, là, fait que ça va être à suivre, là, mais...
Mais je pense que c'est une réflexion qui doit être constamment active en tant que parent. Puis même moi, là, tu vois, il y a juste 2 mois et demi, mais moi aussi, je me questionne par rapport à ça, puis... Je te dirais, tous ces livres, là, c'est juste des personnages non blancs. Puis c'était vraiment important pour moi aussi. Mais puis des fois aussi, je me questionne, comme tu dis, tu sais, oui, on a notre chapeau professionnel, mais on a aussi notre rôle en tant que femme, en tant que mère. Puis je sais que je veux pas non plus, des fois, tu sais, je veux être attentive à est-ce que je lui projette, là, en ce moment, mon militantisme, mon activisme. Je veux pas le précipiter non plus dans son processus d'identité raciale. Ouais. Peut-être que lui, il est bien chill en ce moment. Ouais. Puis, peut-être qu'à 3 mois, il a pas envie d'être un antiraciste baby.
À 3 mois, je te le garantis.
Moi, je suis comme, c'est ça qu'on lit ce soir.
Veut juste des tits, là.
Ouais, c'est ça.
À trois mois, c'est sûr. Mais tu vois, moi, je me pose la même question. Il y a 3 ans, tu sais, il va avoir 4 ans. Puis je suis comme, est-ce que c'est too soon? Mais en même temps, ça fait tellement partie de moi et de nous et de... Tu sais, que je pense que ça va comme... Je pourrais pas faire autrement, là, éventuellement, tu sais. Puis je vais voir quand il va être dans son milieu scolaire puis il va être... Oui, tout ça, ça va être quelque chose qui va comme être encore une ongoing conversation. J'espère, parce que, mine de rien, il y a quand même, tu sais... Je trouve ça vraiment dommage à dire, là, mais George Floyd a fait une espèce de gros comme spotlight incroyable de genre comme je veux être actif et tout. Puis plus le temps va passer, moins ça va devenir comme la saveur du jour. Là. Puis c'est tragique de dire ça, là, mais ça reste quand même mon impression, mon scepticisme qui rentre là-dedans. Puis je le sais que ça va demander qu'il y ait encore une controverse de mots en N à l'université, puis encore une autre histoire de personnes tirées par les policiers à Repentigny pour revenir là-dedans, ça me démolit de savoir qu'il va toujours avoir besoin d'une victime BIPOC pour qu'on puisse faire comme genre « Hey, faudrait qu'on arrête d'être raciste. » Je suis comme « No shit. » Fait que,
ouais, je pense que ça, c'est une réflexion qu'on partage tous, là, tu sais, c'est ça, c'est comme un genre d'épuisement, une fatigue, en même temps, comme tu disais, de vouloir prendre parole pour pas que ça soit fait par quelqu'un d'autre, puis ça nous frustre davantage. C'est comme une ongoing réflexion, puis je pense que pour plusieurs personnes non blanches, les souvenirs liés à l'école, là, c'est parfois un petit peu plus traumatisant qu'autre chose. Puis c'est pas pour rien, justement, tu sais, j'avais déjà lu des articles qui expliquaient pourquoi il n'y avait pas tant d'enseignants non blancs, là, tu sais, ça remontait justement à des traumas aussi qui disaient, ben ça leur donne pas tant envie, là, d'eux-mêmes œuvrer dans ce milieu-là, au final.
C'est vrai.
Oui.
Ouais. Mais c'est ça, c'est triste, mais tu sais, j'espère quand même que ça va changer, ça va tendre vers un changement suffisant pour que ils puissent juste avoir plus de personnes qui puissent se reconnaître. Je passe tellement de temps avec les enfants des autres. Des fois, je suis comme mm-hmm. Tu sais, c'est comme ma job, c'est d'être avec ton kid. Fait que tantôt, quand tu parlais des élevés, c'est comme, c'est un peu ça, là.
Ben oui.
Fait que c'est vraiment, tu sais, je deviens comme la personne, tu sais, je deviens une personne parmi tant d'autres qui, avec laquelle il peut s'identifier, tu sais. Fait que j'aimerais ça, que ce soit quelqu'un qui me ressemble.
Mais oui,
comme, ouais. Moi, j'en ai jamais eu, là, de personne. J'ai eu un directeur quand j'étais au primaire, mais c'est tout. J'ai pas eu d'enseignant, j'ai pas eu, tu sais. Fait que c'est pas le même regard, c'est pas les mêmes choix que tu vas faire dans tes sujets, c'est pas les mêmes choix que tu vas faire au niveau des livres que tu vas lire. T'auras pas nécessairement ce regard-là. Mm. J'ai encore beaucoup d'espoir que c'est de plus en plus ça, mais ça reste quand même, tu sais, c'est long, puis c'est pas encore généralisé, tu sais.
Moi, on avait déjà demandé sur le podcast, comme je pense. Est-ce que vous avez déjà eu un prof non blanc? Puis je pense que le monde était comme, genre un
ouais.
prof de maths au secondaire.
Ouais, ouais.
C'était vraiment pas fréquent.
Ouais.
Puis même le monde, j'avais vu un article sur le site du Devoir qui disait que le monde de l'enseignement supérieur, c'est un rêve difficilement accessible pour les personnes noires autochtones et les autres minorités.
Ouais.
Les profs, les enseignants noirs, plutôt, ils représentent seulement 2 % des enseignants universitaires.
C'est fou, elle.
Puis leur salaire est inférieur de 11 % à celui de leurs collègues blancs.
Ouais, mais ça m'étonne pas, malheureusement, là, mais je suis... je trouve ça vraiment terrible. Puis il y a aussi que dans nos communautés, puis comme ça, je nous le donne, entre guillemets, là, c'est que, tu sais, ceux qui viennent d'un milieu... soit qu'ils sont immigrants d'un pays qui a comme plein de struggles, souvent les parents BIPOC vont aspirer à mieux. Mm-hmm. Ce qui est dommage parce que c'est quand même très dope là, d'être oui. enseignant. Fait qu'ils vont quand même aspirer à des emplois qui sont stables, qui sont bien nantis, qui sont vraiment... qui vont comme te sortir un peu de ton hustle. Là.
Ouais.
Fait que ça va être... Tu seras pas assez reconnu si t'es tel emploi. Fait c'est qu'on ça. Veut que tu sois avocat, on veut que tu sois médecin. Ça ressemble à ça, tes
ça
choix.
Ça aide pas non plus... Il y a le podcast Why We Hate School de Woke or Whatever Me Girls. Et je veux dire, elles ont bien dit là, que l'école, c'est un vrai miroir du capitalisme parce que, tu sais, il y a une création des hiérarchies, des matières en mode, comme tu as dit, ouais. tu vas avoir un bright future si tu excelles en maths, en sciences, en lettres, tu vas pouvoir être un docteur, un avocat, peu importe. Parce que, justement, tu vas pouvoir trouver un emploi qui te rapporte plein de cash.
Ouais.
Puis là, we all know it's all about money, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
C'est vraiment dommage que l'école, c'est pas tellement un safe space dans le sens où il recrée tellement de systèmes de pression. Je veux dire, il y a de l'over-performance parce qu'on pense que nos notes à l'école, c'est comme un reflet de notre valeur. Puis on continue sur cette lancée-là, ouais. même dans le milieu du travail.
Ouais.
On continue à overachieve parce qu'on veut bien plaire à notre boss. On veut ci, on veut ça, on veut être récompensé.
Ouais, tout ça, là, ce que les filles nommaient dans cet épisode-là qui est comme mind-blowing,
mais oui.
Ça commence vraiment tôt au primaire. Là.
Ah,
vraiment,
ouais, hein.
vraiment très tôt. Ouais,
donc,
ouais.
Est-ce que tu peux donner des exemples?
Ben, vraiment comme t'as un 70% dans ton examen. Puis là, c'est sûr que moi, j'ai travaillé dans des milieux quand même assez favorisés, là, mais t'as 70% dans ton examen. Là, l'enfant, il capote parce qu'il faut qu'il ramène ça à son oh. parent. Puis il a vraiment l'impression que, tu sais, ça va vite, là, ou est-ce que genre, ah, ma vie est finie, je vais finir, je vais aller travailler au McDo, là. Tu sais, j'ai déjà entendu ça.
Ah ouais.
Puis, ça, c'est sûr que c'est comme... Est-ce que, tu sais, il y a une escalade un peu intense, là, puis un peu overdramatic de ces kids-là, ouais. fait que c'est des affaires à défaire, mais ça reste quand même que le parent, ce qu'il va nommer à la maison, ça va être un discours qui n'est pas si loin de ça. Tu sais, il ne va pas faire un 1 plus 1 égale 2, genre 70 % dans ton examen d'univers social, tu t'en vas travailler au McDo, il n'y a plus d'avenir pour toi. Mais ça reste qu'il y a quand même des espèces de petits messages subliminaux qui t'envoient comme quoi, mais il faut que tu ailles ces notes-là, il faut que tu ailles au privé, il faut que tu ailles ici, il faut que tu ailles dans la bonne école. Faut Fait que tout ça, ça reste beaucoup très anxiogène pour le kid qui doit lui aussi performer pour que sa prof soit fière de lui, tu sais, parce que justement, c'est comme son... Tu sais, c'est son modèle, là. Ouais. C'est comme c'est son nom.
Oui.
C'est le troisième parent qui est là devant lui à 8 heures par jour, là, tu sais. Fait que c'est vraiment comme problématique.
Très.
Moi, quand j'écoutais cet épisode-là, j'étais comme, OK, on a vraiment plusieurs questions à se poser, là, parce que c'est plein de justement d'oppression, mais à petite échelle, tu sais.
Est-ce que même au primaire, tu constates qu'il y a de la misogynie? On réprimande aux filles leur habillement, pas de bretelles spaghetti, jupe trop, je sais pas trop quoi.
Dans mon milieu, non.
Few.
Ish. dans le sens où est-ce que ce sera pas, ça sera pas nécessairement dit de manière flagrante. Des fois, c'est dans le code vestimentaire, le code de vie, puis soit c'est révisé, soit ce l'est pas. Okay. Je pense que c'est dans le discours parfois où est-ce qu'on va comme avoir une petite réaction quand on va faire genre « Ih, les shorts, hein? » je pense que c'est pas encore d'effet, okay. Cette misogynie internalisée chez des enseignantes. Mm-hmm. Je le dis là parce que ouais. c'est souvent aussi problématique chez les enseignantes que chez les enseignants.
Ouais.
Mais je sais qu'il y a des exemples où est-ce que justement ça a été quand même nommé là, comme quoi ça... On devrait faire quelque chose par rapport au fait que les filles sont habillées de telle façon et tout. Tu sais, je pense pas que c'est généralisé. Je pense que j'avais déjà envoyé un petit, pas un sondage, mais un espèce de petit truc Instagram pour voir comme ça ressemble à quoi dans votre milieu. Oui. Je dirais qu'en majorité de ceux qui me suivaient, c'était vraiment quelque chose comme quoi soit ils avaient enlevé ces codes vestimentaires-là sexistes dans leur code de vie, soit ils étaient sur le point de le faire, soit il y avait des profs qui réagissaient, eux, ils disaient que non. Mais moi, j'ai déjà entendu des trucs qui m'ont fait sourciller, là, puis que je me dis juste que, tu sais, c'est correct d'être encore comme influencé par toute cette socialisation-là, puis cette hypersexualisation-là, puis c'est correct d'avoir ce réflexe-là, de faire genre que, OK, c'est cool, ah, c'est transparent, c'est si, mais ça prend 3 secondes de se demander d'où est-ce que ça vient, puis qu'est-ce qu'elle avait changé chez l'apprentissage de l'enfant, dans sa sécurité, rien pantoute. Et qu'est-ce que ça l'envoie comme message? Le message, c'est que mon regard d'adulte dérange ta vie d'enfant. Déjà, c'est wrong. On arrête ça. Ouais. Comme là, c'est... Fait que tu sais, si t'es pas prêt à faire ce travail-là puis cette espèce de retour-là, c'est là que ça devient problématique. Ben non, c'est normal.
Oui, t'as raison. Mais je pense, je suis contente qu'on ait pu avoir cette discussion-là sur l'éducation, parce que tu sais, on dit souvent que c'est comme à la base de tout, puis c'est là que tout commence. Puis en même temps, tu sais, quand on parlait au début, tantôt, ça me faisait réfléchir que les trois, tu sais, au final, on dirait, tu sais, c'est vraiment là un bel exemple de l'intersectionnalité, parce que clairement, tu sais, professionnellement, tu sais, dans nos identités professionnelles, notre identité professionnelle croise vraiment notre identité raciale. Puis, tu sais, on dirait que toutes les trois, justement, on advocate beaucoup pour ça dans notre profession. Fait que,
ouais.
Je trouve que c'est comme vraiment un exemple de à quel point on peut pas choisir, justement. Puis, c'est pas de dire, OK, quelle identité je prends aujourd'hui,
mais non,
c'est vraiment
choisir.
Des expériences qui s'empilent, puis qui nous composent. Puis, puis, en même temps, je trouve que ça témoigne de, comme tu disais tantôt, à quel point ça peut nous animer, puis nous rendre encore plus comme. Genre vrai dans tout ce qu'on fait, puis à quel point c'est deep, puis c'est profond, mais à quel point aussi ça peut être très énergivore, puis demandant, là, tu sais, parce que c'est tout ton être, là, au final.
Ouais. Oh, oui, vraiment. Comme on peut pas, là, can't shut it down, tu sais.
Ben, exact. Vraiment.
Pour finir, j'aimerais ça qu'on rêve d'un système scolaire antiraciste. Ça serait quoi tes souhaits pour le changement?
Ah!
Mettons que tu pouvais écrire une lettre au ministre de l'Éducation.
Ah, mon Dieu.
What's up?
Yo, GF, faut qu'on se parle.
Yo!
C'est une très bonne question. Faudrait que je me penche pour que ce soit comme aussi eloquent que je voudrais.
Yeah, mettons que
mais,
genre
6 minutes.
Boy, 6
minutes. Mon brouillon. C'est clair que ce serait d'avoir de la représentation dans la majorité de ce que les enfants consomment en littérature jeunesse, of course, parce que ça reste quand même ma passion numéro un. Ce serait qu'on soit capable de challenger beaucoup d'idées puis de biais dans ceux qui œuvrent, ceux qui font les programmes, ceux qui interviennent, ceux qui c'est ça, qui sont comme en mode satellite autour de l'enfant. Qu'on soit capable de bien les nommer, d'être capable de l'adresser sans qu'il y ait de tabou, en créant un inconfort, mais un inconfort qui te fait grandir, tu sais. Puis je pense que c'est pas demain matin qu'on va assister à ça, mais je pense quand même que ça demande juste de s'habituer à cet inconfort-là, de la même manière où est-ce que ça a pris beaucoup de temps, mais on s'est habitué au fait que les femmes prennent leur place dans les milieux de travail, dans les écoles. Puis là, maintenant, c'est comme même plus un issue, tu sais. Fait que c'est vraiment dans cet esprit-là où est-ce que ça va être un ongoing battle, mais qu'on soit capable de justement se mettre le miroir au visage, puis d'être capable de faire les moves qui sont en lien avec ça, puis que ce soit pas juste en surface. Puis c'est ça, qu'on soit capable de se regarder dans les yeux puis de dire genre, ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne, puis ça veut pas dire que la société c'est de la merde non plus. Mm-hmm. Ça veut juste dire que it can be better, puis que quand tu penses que c'est déjà mieux, mais ça peut être encore mieux que ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est pas quelque chose qui est comme gagné en étant tout le monde dans sa zone de confort. Mm-hmm. Puis c'est sûr que moi je voudrais que les personnes qui sont les plus marginalisées comme rise up, comme je remarque que l'ouverture par rapport aux communautés LGBT+, il y a comme une il y a une ouverture puis un amour qui est comme de plus en plus là, même mm-hmm. s'il reste plein de battles. Communauté noire, ça commence encore plus. Les communautés autochtones, je trouve que c'est on n'est vraiment pas là. Puis c'est ce qui me heurte le plus parce que it's their land.
Ouais,
fait que, c'est ça, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment comme le prochain pas qui est le plus important. Le regard que, de mon côté que j'aimerais justement apporter ou comme, en tout cas, être capable de travailler plus fort, c'est vraiment tout ce qui est par rapport au capacitisme, par rapport au handicap. J'ai vraiment plusieurs croûtes à manger, puis on est plusieurs à le faire.
Ouais.
Je pense que c'est vraiment quelque chose de à mettre vraiment sur notre liste de souhaits big time, parce que quand justement j'écoutais l'épisode des filles de Woke Whatever, ouais. j'étais comme,
ouais.
c'est vraiment, c'est traumatisant, puis c'est bad, puis c'est vraiment invisibilisé encore plus que le reste. Fait que, tu sais, je pense qu'on a encore beaucoup de pas à faire, puis tous les handicaps qui sont pas visibles, ceux-là aussi, là, faut commencer, get on with the program, là, ils font partie de la gang, là, puis faut qu'ils aient leur place, là, parce qu'on veut que tout le monde thrive, là.
Oui.
C'est vraiment ça.
Exact. Mais c'est une belle, un beau brouillon.
Merci.
On remercie tout le monde, puis particulièrement toi, Benita, pour ton temps encore aujourd'hui. On espère qu'il va y avoir d'autres profs, d'autres enseignants qui vont t'accompagner là-dedans pour que tu ne sois pas la seule porte-parole dans tout ça.
Oui.
Puis on vous rappelle, on va linker, c'est ça, ton article dans les infos. Puis aussi, pour ceux qui le savaient pas, peut-être en fouillant pour nos recherches, j'ai vu qu'il y avait le groupe Parents of Black Children Canada, ça a débuté en Ontario, en fait. C'est un outil en ligne pour rapporter des actes racistes subis ou observés dans les milieux scolaires du pays.
Wow.
Fait que j'ai regardé, c'est un Google Doc. C'est tous des témoignages anonymes, justement, pour protéger les gens. Puis c'est pour justement compiler, puis justement montrer que, oui, le racisme systémique est présent encore aujourd'hui. Donc, il y a des outils, des mobilisations de la part des parents qui se font en ligne pour rapporter, puis faire preuve de tout ça. Même si on le sait, là.
Ouais.
Mais c'est ça existe, là. Juste, on va le mettre aussi dans les liens.
C'est bon à savoir. Puis j'ai une collègue prof aussi qui a parti d'une page Facebook des enseignants noirs qui œuvrent à Montréal. Non, enseignants noirs du Québec, en fait. C'est dans le... C'est sur Facebook, c'est quand même facile à trouver. Puis c'est vraiment comme, justement, c'est un safe space. C'est aussi des outils de partage. Des fois, c'est juste comme « What's up? Comment vous allez? » Fait que ça fait vraiment du bien d'avoir comme... Il y en a plus qui sont là, peut-être qui ont moins de plateformes, qui ont moins de la voix à parler moins fort, mais ça reste quand même présent pour ceux qui écoutent. Puis j'ajouterais que votre espace et le podcast, je vais jamais assez le praise à quel point il est essentiel. Puis que si je l'avais eu quand j'étais au secondaire, puis au primaire, peut-être pas au primaire, mais quand même, quand j'étais dans cette recherche-là, puis essayer d'ancrer mon identité, puis de femme noire au Québec, qui est toujours un peu entre le struggle de est-ce que je suis where I belong.
Mm.
C'est super important. Fait que merci pour ce que vous faites.
Merci.
Vous êtes dope.
Comme c'est très important, on vous rappelle que ces sessions-là au studio, ça se paye pas avec des likes. Donc, notre PayPal est toujours linké partout, dans notre bio Instagram, en dessous des épisodes. On vous invite évidemment à partager cet épisode-là. On connaît tous un enseignant, là, comme partagez-le. C'est vraiment important comme discussion. Puis, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et c'est ça qui est ça, là. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire, Ellie?
Merci tout le monde.
Bye.
Merci. Where I'm from, there's a lot going on.
English meets French in every borough. No matter where you're from, downtown, DG, Laval, South Shore, West Side, North Side. In my city, every culture coincides. The African diasporas will collide. You are now tuned in with Jess and Annabelle. That's where we at, where we at, where we at, MTL.